sur la côte vendéenne. Il est 21h.
Neptune FM.
Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Tous, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du groupe Malice Mizer. On parlera ensuite de trois mangas des éditions Delcourt Tonkam avec la présentation du manga De l'autre côté de l'horizon, la chronique du volume 2 de Derrière le ciel gris. On aura aussi la présentation de Ayako, l'enfant de la nuit. On aura ensuite un petit point sur les sorties manga de la semaine. On parlera culture, on continuera donc à découvrir les objets du quotidien japonais avec le film d'animation Mon voisin Totoro. On aura ensuite une petite actualité en Corée du Sud avec une œuvre à 400 000 euros vandalisée par erreur. Et on finira avec une petite news musicale concernant l'ultime opus de Kim Sung-kyu sous le label William Entertainment. Donc le single Won't Forget You. On va donc tout de suite commencer l'émission avec la première chanson. C'est Kiramiku Amabe de Ohara Yuiko, qui a servi de premier ending pour l'anime Oseki no Kuni. Et on reviendra juste après pour parler du groupe Malice Mizer.
I'm
c'était Kelameku Amabe avec qui a été interprété par Ohara Yuiko, une chanson qui a servi de premier ending pour l'anime Oseki no Kuni. On passe maintenant à la présentation du groupe de la semaine. Donc on va parler du groupe Malice Mizer, un des tout premiers groupes de musique japonaise d'ailleurs que j'ai commencé à écouter, voilà, qui m'a fait sombrer là-dedans. Donc c'est un groupe japonais de rock visual kei qui a fait ses débuts en 1992 et qui s'est séparé en 2001. Le groupe était sous le label Midinet et se composait de 4 membres. Donc on avait Klaa au chant de 2000 à 2001, Kozy à la guitare, au clavier, au chœur et aux percussions de 1992 à 2001, Yuki à la basse, à la contrebasse, aux percussions et au chœur de 1992 à 2001, et Mana du groupe Moi Dis-moi à la guitare, au clavier, aux percussions de 1992 à 2001. On compte aussi 3 ex-membres, Gakt qui était au chant et au piano de 1995 à 1999, Camille à la batterie et aux percussions de 1993 à 1999, et Tetsu du groupe Nil au chant et au clavier de 92 à 94. Malice Mizer se forme donc en 1992 à l'initiative de Mana et Kozy. Le groupe est alors constitué de Kozy à la guitare, Yuki à la basse, Gaz qui est remplacé par Camille en 1993 à la batterie, Tetsu au chant et bien entendu de Mana qui n'est autre que guitariste et leader et qui s'occupe aussi des claviers. En 1994, le groupe a déjà sorti 2 démo tapes, Sans Logique et Sadness, et possède son propre label Midinet. Ils sortent ensuite leur premier album Mémoire. Le groupe montre avec cet album qu'il possède un style plutôt sombre, vraiment à part, ne ressemblant pas aux autres productions indies du moment. Au niveau vestimentaire aussi, le groupe est très sombre, arborant en majorité des tenues gothiques, toujours très travaillées. Vers la fin de l'année 1994, Tetsu décide ensuite de quitter le groupe. Il semble qu'il était en désaccord sur certaines choses. Donc c'est à la fin de l'année 1995 que Malice Mizer retrouve un autre chanteur, donc il s'agit de Gakt. Celui-ci, avec sa voix bien plus douce et bien plus belle que celle de Tetsu, n'a pas de mal à prendre sa place. Dès son arrivée, le groupe sort un premier single ainsi que son deuxième album, Voyage sans retour. Évidemment, cet album est bien meilleur que le premier, en partie grâce à Gakt, mais aussi du fait que musicalement, l'album est un niveau au-dessus. Suivent ensuite plusieurs concerts, dont un édité en vidéo, ainsi que le second single, Ma chérie. En 1997, le groupe passe en major et sort un single, Bel Air. Leur style vestimentaire change quelque peu, laissant place à une majorité de tenues françaises du XVIIIe siècle, certainement choisies par Mana, qui a une affection particulière pour la France. C'est pour ça que vous constaterez qu'il y a beaucoup de titres de leurs chansons qui sont en français. Malice Mizer ne cesse de gagner ensuite en popularité, des singles sortent, des lives s'enchaînent, le groupe passe à la télé, et en 1998, avec la sortie du troisième album Merveille, Malice atteint son apogée. Cet album est considéré par beaucoup comme l'album de Malice Mizer. Il se classera d'ailleurs en seconde place du classement Oricon, ce qui n'est pas rien. Cependant, début 1999, Gakt quitte le groupe pour entamer une carrière solo. Les raisons de ce départ si brusque ne sont pas très claires. Et pour ne rien arranger, Camille décède en juin 1999. Ces deux événements marquent un tournant au sein du groupe. Les tenues changent et Malice Mizer n'est plus composé que de 3 membres. Et pourtant, malgré les dires de certains comme quoi le groupe ne survivrait pas, celui-ci sort un single totalement instrumental, au son bien plus sombre que les productions précédentes, certainement dues au décès de Camille et au choc que cela a provoqué pour Mana et les autres. Il faudra attendre mai 2000 pour qu'un nouveau chanteur soit engagé, donc il s'agit de Klaa. Il possède une voix chaude, claire et deviendra membre officiel après la sortie de Bara no Seido, un album au son encore une fois très sombre. Malheureusement, le groupe finit par se séparer fin 2001, laissant à chacun la possibilité de poursuivre une carrière en solo. Donc côté discographie, le groupe a sorti un total de 11 albums. Le premier, c'est Osaka Rockets, Cher de mémoire, qui est sorti le 8 octobre 1994. Et le dernier, c'est la collection des singles Merveille, le 19 juillet 2006. Donc c'est pas que je traduis les titres, hein, c'est vraiment en français, donc bien plus facile à dire du coup. Ils ont sorti aussi 17 singles, le premier Sans Logique, qui est sorti le 31 octobre 1992. Et le dernier, c'est Garnet Kindan no Sonoe, qui est sorti le 30 novembre 2001. Ils ont aussi sorti 2 démo tapes, Sadness Speed of Desperate en 1992 et The First Anniversary le 10 décembre 1993. Pour finir, ils ont participé à 4 compilations. La toute première, c'est Brain Trash, qui est sorti le 24 février 1993. Et la dernière, c'est Rock Nippon Noriko Shoji Selection, qui est sorti le 24 janvier 2007. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite mes deux chansons préférées de Malice Mizer. On commence avec Beast of Blonde et on reviendra juste après pour la présentation du manga de l'autre côté de l'horizon.
Sadness, no delight, hostess in loneliness. Dante and the world died. With no more life left of sorrow, I crave less. Closer on the freezing ground, get down the limitless light. Is but, is but, is but.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
C'était Malice Mizer avec la chanson Ma chérie Hitoshi Kimiye. On passe maintenant à la présentation du manga De l'autre côté de l'horizon, du titre original Yasashii Hikari. Alors, c'est un seinen de genre comédie, drame, romance, tranche de vie, qui a été écrit par Nakamura Hinata et pré-publié dans le Good Afternoon. La version japonaise est parue en 2018 aux éditions Kodansha avec un total de 3 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 17 février 2021 aux éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight avec pour le moment un seul tome de sortie. Vous pourrez retrouver De l'autre côté de l'horizon dans le commerce pour un prix de 7,99€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus et il n'existe pas d'adaptation en animé. Tout quitter pour mieux se retrouver. Voilà la courageuse entreprise menée dans ce titre délicat et poétique. Place à la mélancolie heureuse. Alors, le résumé de cette série, Miyake, jeune salaryman Tokyoite, ne supporte plus sa vie d'employé surmené. Il décide du jour au lendemain de tout quitter pour rejoindre l'île de Tsukinowa, où il va gérer un petit bureau de poste. La crainte de laisser derrière lui son quotidien bien rangé se mue en une véritable redécouverte de soi. Une nouvelle vie en harmonie avec celui qu'il souhaite réellement être s'ouvre à lui. Voilà, donc De l'autre côté de l'horizon à retrouver pour le moment avec un tome aux éditions Delcourt Tonkam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est le deuxième ending de l'anime Fairy Tail Suiyoku Merigoran de One Life Crew. Et on viendra juste après pour parler du volume 2 de Derrière le ciel gris.
I'm still calling your name. se cahier de haine.
C'était One Life Crew avec la chanson Tsuyoku Merigoran qui est servie de deuxième ending pour l'animé Fairy Tail. On va tout de suite continuer avec la chronique du volume 2 de Derrière le ciel gris. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre drame, psychologique, romance, vie scolaire, surnaturel, qui a été écrit par Miyaki Sugaru, dessiné par Londro et prépublié dans le Pixiv. La version japonaise est parue aux éditions Kadokawa Shoten avec un total de 2 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight avec également 2 tomes. Ce volume 2 est sorti le 30 décembre 2020 au prix de 7,99€. Il va donc falloir attendre un petit peu pour le tome 3. Le résumé de ce tome, Kumori Zora souhaite redonner goût à la vie à Aozora avant de l'éliminer. Il recule donc perpétuellement l'échéance, quitte à semer le doute dans l'esprit de la jeune fille. A-t-il vraiment envie de la tuer ou ne parvient-il tout simplement pas à aller jusqu'au bout de sa mission ? Voici désormais 3 semaines que Kumori Zora a rencontré sa dernière cible à abattre, Aozora. Et quasiment autant de temps qu'il essaie de redonner goût à la vie à cette fille apathique qui semble attendre la mort plus que tout. La mission aurait donc dû être simple au départ, mais Kumori Zora ne peut s'empêcher de vouloir que cette fille sourie et soit un peu heureuse juste avant de mourir, histoire qu'elle ait des regrets en quittant ce monde. Et pourtant, rien n'y fait. La situation semble presque s'inverser entre les deux jeunes gens, tandis qu'Aozora, dont on connaît désormais le passé, un passé qui veut aussi dire beaucoup de choses sur le possible avenir funeste de Kumori Zora. Tandis qu'Aozora, dont on connaît désormais le passé, un passé qui veut aussi dire beaucoup de choses sur le possible avenir funeste de Kumori Zora, elle reste fidèle à elle-même, tandis que Kumori Zora, lui, s'entête à essayer de lui procurer du bonheur. Mais dans le fond, est-ce vraiment pour mieux la tuer après ? On retrouve ici nos deux personnages principaux alors qu'ils continuent d'agir comme d'habitude l'un envers l'autre. Lui essaie de lui redonner goût à la vie via diverses activités comme des sorties et se plaît à l'observer en train de discuter avec une fille de sa classe qui semble vouloir devenir son amie. Bref, des choses qui devraient être bénéfiques et heureuses normalement, mais elle continue pourtant de montrer un comportement plus bactère. Elle le met au défi, menace de se suicider s'il ne fait rien, ce qui le mettrait dans l'embarras. Quand bien même, comme elle le dit, elle veut mourir de ses mains à lui, ce qui est son seul souhait. L'idée est intéressante, mais concrètement, qu'est-ce que c'est plan-plan ? Si on continue de suivre avec un certain intérêt cette histoire enveloppée dans une forme de spleen et l'évolution sentimentale certes très basique mais assez honnête, il faut avouer que Lundro, malgré la finesse de son trait et l'impression de fragilité que dégage son héroïne, a plutôt du mal à emballer sa narration. Une chose qui n'est pas aidée par les textes, pensés comme dialogue entre les deux héros, qui comporte pas mal de petites idées autour de la vie, du bonheur ou encore du regard face à l'inéluctable mort, mais qui ne vont jamais plus loin que de brèves évocations sans grande consistance. Des sujets que Sugaru Miyaki, l'auteur d'origine, a bien mieux abordés dans l'une de ses autres œuvres, le roman pour 3 jours de bonheur, dont l'adaptation est, je le rappelle, en cours de parution en France chez Delcourt Tonkam, elle aussi donc sous le titre du prix de reste de ma vie. Le roman d'origine est-il plus consistant que le manga ? C'est difficile à dire, étant donné que le roman n'est pas encore sorti en France à ce jour. Heureusement, la dernière partie du volume vient sortir un peu les lecteurs de leur torpeur, en amenant quelques nouveaux rebondissements assez intrigants, et qui sont aussi l'occasion d'enfin entrevoir un peu plus le passé de Kumori Zora, un passé pouvant expliquer sa façon d'être et son rapport à la mort. Et face à la situation nouvelle, le jeune homme devra sans doute prendre une décision, pas en tant que nettoyeur, mais en tant que lui-même. Mais cette décision, on n'est visiblement pas prêt de la découvrir. En effet, on ne peut pas dire que Derrière le ciel gris soit publié rapidement au Japon. Depuis la sortie simultanée des 2 premiers volumes là-bas en août 2018, on est tout bonnement quasiment sans nouvelles de la série. Lundro a apparemment quand même dessiné quelques nouveaux chapitres, mais toujours pas assez pour un éventuel 3e volume. Voilà, donc il va falloir toujours attendre un petit peu, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, en attendant, si vous voulez découvrir Derrière le ciel gris, c'est paru pour le moment en 2 tomes aux éditions Delcourt Tonkam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Ikinai Taiyo de Orange Range et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine. C'était Orange Range avec la chanson Ikenai Taiyo. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi 28 avril avec aux éditions Meiyan la sortie du volume 6 de Kingdom, l'édition collector, le volume 10 de Baltzar, La guerre dans le sang, les volumes 59 et 60 de Kingdom, le volume 11 de Tombée du ciel et le volume 3 de Unsung Cinderella. Aux éditions Kazé, on aura la sortie du volume 26 de Blue Exorcist et le volume 28 de Moonlight Act. Aux éditions Soleil, ça sera la sortie du volume 2 de Coma Héroïque dans un autre monde, le volume 5 de Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon et le volume 2 de La Sorcière Invincible, tueuse de Slim depuis 300 ans. Aux éditions Casterman, on aura la sortie des volumes 1 et 2 de Comet Girl, une série terminée en deux tomes. Et aux éditions Nobby Nobby, ça sera la sortie du volume 1 des aventures de Huckleberry Finn et le volume 1 des aventures de Tom Sawyer, Kuma-chan. Pour jeudi 29 avril, on aura ensuite donc aux éditions Komiku la sortie du volume 3 de Dahlia, artisane magicienne, le volume 27 du chef de Nobunaga, le volume 1 du Fossoyeur et le volume 5 de The Dungeon of Black Company. Et aux éditions Akata, on aura la sortie du volume 37 déjà de Prisonnier Riku. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 30 avril avec chez Isan Manga le volume 1 de Ambassador Magma, chez Manhead le volume 5 de Battle Through the Heavens en édition reliée, aux éditions Naban on aura le volume 4 de Demande à Modigliani et le volume 2 de Say Hello to Blackjack, la réédition 2021, Aux éditions Ototo, on aura le volume 11 de Mayball Féminine Football Team, le volume 10 de Murcielago, le volume 5 de Sword Art Online Ordinal Scale, qui sera le dernier tome de la série, et le volume 4 de Sword Art Online Project Alicization. Aux éditions Niodiba, on aura la sortie du volume 1 de Monster Girls Party, aux éditions Taifu Comics, le volume 2 de My Hero's Dream, aux éditions Noeve Graphs, on aura le volume 1 de Soul Liquid Chambers, et enfin aux éditions Nazca, on aura la sortie du volume 10 de Tales of Demons and Gods. Voilà, on va pouvoir tout de suite s'écouter une autre chanson, c'est Holy Crap BGM de Oz, et on viendra juste après pour parler culture, avec les objets du quotidien japonais que vous pouvez découvrir dans le film d'animation Mon Voisin Totoro. C'était Oz avec la chanson Holy Crap BGM. On passe maintenant à la partie culture. On va continuer à parler de ces objets du quotidien japonais que vous pouvez découvrir dans le film d'animation Mon Voisin Totoro. Donc on continue avec le Yorishiro et les Emma. Donc lorsque Mei s'enfonce avec sa famille dans la forêt, on peut voir le grand camphrier qui habite Totoro. Donc son tronc est cerné d'une banderole sacrée appelée Yorishiro. Cet objet que l'on accroche afin d'attirer les esprits, et notamment les divinités, est composé d'une corde nommée Shimenawa et de banderoles de papier nommées Shide. On peut ici imaginer que c'est le fait d'avoir apposé cet objet de rituel sur l'arbre qui a attiré l'esprit de Totoro dans la forêt. Les petites pancartes de bois en forme de maisonnette accrochées sur le sanctuaire sont, quant à elles, des Emma, donc des plaques sur lesquelles on inscrit un vœu ou une prière. Elles sont accrochées ainsi dans l'optique que les dieux puissent les lire et ainsi les exaucer. Ensuite, on a les kokeshi. Donc sur le bureau de Satsuki, on peut voir une petite poupée en bois. Donc il s'agit d'une kokeshi traditionnelle, bien loin de l'image de la kokeshi qu'on a aujourd'hui. Objet iconique du Japon, et plus particulièrement de l'enfance japonaise, cette poupée est taillée par un artisan dans du bois, puis peinte à la main. Il en existe de différentes tailles, mais les plus communes tiennent dans la main. Et enfin, on a donc Inari. Peu avant l'emblématique scène de l'arrêt de bus, Mei s'aventure aux alentours et fait la rencontre d'une statue de pierre en forme de renard. Dans les croyances Shinto, il s'agit de Inari, la divinité des céréales, puis des fonderies et du commerce, qui est représentée donc par un renard, ou Kitsune. Au Japon, il s'agit de l'une des divinités les plus populaires du folklore, si bien qu'un superbe sanctuaire lui est dédié, le Fushimi Inari Taisha, qui est à Tokyo, l'un des sanctuaires, les plus visités du pays chaque année. Voilà, donc on continuera à parler des objets du quotidien japonais que vous pouvez découvrir dans le film d'animation Mon voisin Totoro la semaine prochaine. En attendant, on va s'écouter une autre chanson, c'est Like de Poi, et on viendra juste après pour parler du manga Ayako, l'enfant de la nuit. Check one, two, and we... Donc c'était Poi avec la chanson Like. On passe maintenant à la présentation du manga Ayako, l'enfant de la nuit, du titre original Ayako. Donc c'est un seinen de genre drame historique psychologique qui a été écrit par Kubo Kurin d'après l'œuvre originale Ayako de Osamu Tezuka. Donc si ça vous intéresse, elle est parue en 3 tomes et en édition intégrale aux éditions Delcourt Tonkam. Et donc Ayako, l'enfant de la nuit a été prépublié également dans le Tezukomi. La version japonaise est parue en 2018 aux éditions Micro Magazine avec un total de 3 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 10 février 2021 aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment un seul tome de sortie. Vous pourrez retrouver Ayako, l'enfant de la nuit dans le commerce pour un prix de 9,35€. L'âge conseillé pour le lire est de 16 ans et plus. Et il n'existe pas d'adaptation en animé. Ayako, l'une des œuvres les plus emblématiques de Tezuka, revisitée par un auteur contemporain, un œil nouveau sur l'une des histoires les plus sombres du dieu du manga. Donc le résumé de cette série, transposée dans des temps plus modernes, la terrible histoire d'Ayako résonne toujours de manière aussi cruelle. Une version remaniée par Kubo Kurin qui insuffle une charge érotique au récit et prolonge ainsi le tragique mythe de l'enfant illégitime. Voilà, donc Ayako, l'enfant de la nuit, a retrouvé aux éditions Delcourt Tonkam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est Tensei de Pakuromi qui est la doubleuse du personnage de Teresa dans l'anime Claymore. Et on reviendra juste après pour une actualité en Corée du Sud. Donc c'était Paco Romy avec la chanson Tensei. Paco Romy qui est la doubleuse du personnage de Teresa dans l'animé Claymore. On va maintenant passer à l'actualité en Corée du Sud. Le graffiti Untitled de John Won, exposé à Séoul en Corée du Sud et dont la valeur a été estimée à près de 400 000 euros, a été vandalisé par un jeune couple âgé d'une vingtaine d'années. Le Seoul Arts Center, où l'œuvre du street artiste américain est exposée depuis 2016, a prévenu la police en remarquant de nouveaux coups de peinture. La vidéosurveillance a vite permis d'identifier les deux suspects, qui ont alors expliqué leurs gestes. Ils pensaient que les pinceaux et pots de peinture posés devant le graffiti étaient à la disposition du public alors qu'ils font partie intégrante de l'œuvre, rapporte ABC News. La peinture et les pinceaux utilisés par l'artiste constituent un ensemble complet avec la toile de l'artiste, a expliqué Kang Wook, le co-organisateur de l'exposition. Il a également précisé que l'œuvre n'avait pas pu être encadrée en raison de sa grande taille, qui fait près de 7 mètres sur 2. Voilà, quand même assez grand. Kang Wook n'a toutefois pas accablé le jeune couple, qui n'a fait qu'une mauvaise interprétation de la situation et n'avait donc aucune intention d'abîmer le travail de John Won. Nous ferons notre possible pour minimiser le préjudice subi par le couple qui a vandalisé l'œuvre sans le vouloir, a-t-il ainsi déclaré. John Won, qui vit à Paris actuellement, n'a quant à lui pas souhaité répondre à ABC News après cet incident. Il a toutefois réagi sur son compte Instagram et a qualifié l'affaire de scandale, ne semblant pas croire les explications des deux jeunes individus. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Setsuna Trip de Papillon, et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
Don't know. やってそれを見つければいいの少し微笑んで君が言うそれはねここにあるよ。
Donc c'était Papillon avec la chanson Setsuna Trip. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale. Donc il y a de cela plusieurs semaines, Kim Sung-kyu avait annoncé via V-Live qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec son agence de longue date, Woollim Entertainment. Ce dernier a donc pris fin le 6 mars dernier. Il avait toutefois révélé la sortie imminente d'un nouvel opus marquant expressément la fin des 11 années de collaboration entre eux. Il s'agit du troisième membre d'Infinite, en pause suite au départ à l'armée de plusieurs membres, a quitté le label. Le premier, Oya, avait décidé de ne pas renouveler son contrat en août 2017 et avait par conséquent quitté le groupe dans la foulée. En 2019, c'était à elle de choisir à son tour de prendre un nouveau départ avec une nouvelle agence, l'agence Management Toussaint. C'est ainsi qu'est sorti donc cet opus comprenant trois pistes et intitulé « Won't Forget You ». Après son absence notable sur le dernier mini album You, Inside Me, qui était sorti le 14 décembre 2020, Kim Jong-won signe son retour à la production et à la composition des pistes de ce premier single. Notons également la présence de Space Boys, que l'on retrouve à la composition et aux arrangements de la chanson-titre « Hush », une association qui n'est pas sans rappeler « True Love », le morceau principal de « Ten Stories ». Le single comprend deux pistes supplémentaires, les pistes You et My Day, et vous pourrez découvrir son clip Hush sur internet avec une apparition spéciale de Kwang Eun-bi, le leader du groupe IZONE. C'est donc une page qui se tourne autant pour Woollim Entertainment que pour le chanteur. Voilà, du coup on va s'écouter Hush de Kim Sung-kyu pour finir l'émission. Je rappelle que vous pouvez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude de 21h à 22h lundi prochain pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
Go, Ganache! tout le temps.